Merci Christian, merci pour cette invitation, pour cette dernière, ce dernier séminaire avant la pandémie, hein, ou l'effondrement. Donc on va essayer d'en profiter. Alors, je ne me doutais pas que le public serait aussi éclairé. Et donc ce que j'ai préparé est peut-être un petit peu en deçà finalement de vos attentes. Et donc je vais être assez rapide dans mon introduction pour privilégier le dialogue avec vous, parce que vous avez sans doute des attentes un peu plus précises. En fait, mon topo s'adressait, à l'origine j'avais pas bien compris, alors voilà, maintenant je suis beaucoup plus informé sur les tenants et les aboutissants de cette chaire, mais j'avais compris que je m'adresserais à des néophytes, hein, sur la participation. Donc ça sera peut-être un peu, pour certains d'entre vous, redondant ou du déjà vu, mais je pense que la discussion sera riche compte tenu de la diversité de vos profils. Alors, mon point de départ, évidemment, il sera biographique. Il va renvoyer finalement à ma propre trajectoire de chercheur qui travaille depuis la fin des années 90, début des années 2000, sur ce qu'on appelle la démocratie participative en France, et qui a pu constater finalement une évolution assez sidérante de la question entre le début de mes travaux et aujourd'hui. Le début de mes travaux, finalement, il se situait à un moment où la question démocratique n'était pas une question prise au sérieux par grand monde. Souvenez-vous, en 1989, après la chute du mur de Berlin, l'essai fameux de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, on avait le sentiment que la démocratie libérale représentative constituait bien cette fin de l'histoire, qu'elle fonctionnait plutôt bien. On s'inquiétait un peu de l'abstention, mais finalement, la question de la participation citoyenne n'était pas véritablement prise au sérieux. Et je me souviens par mes collègues, notamment mes collègues qui travaillaient sur la sociologie de l'action publique. Mes premiers articles ont fait l'objet d'une certaine condescendance en disant oui, bon, d'accord, pourquoi pas. Mais il n'y a rien de bien crucial derrière cette question. En une vingtaine d'années, tout a changé. La question démocratique, elle est vraiment au cœur du débat public. Elle est au cœur de toute une série de mobilisations. Les Gilets jaunes, évidemment, étant parmi ces mobilisations, celle qui, de la manière la plus massive, a articulé la question politique, la question démocratique, à la question sociale, la question de la justice sociale, avec cette revendication autour du référendum d'initiative citoyenne, mais aussi avec cette prise de conscience de ce que les dysfonctionnements de notre démocratie libérale conduisaient à l'élaboration de politiques qui étaient perçues comme injustes et à une représentation qui ignorait finalement toute une partie de la population. Et cette jonction entre la question démocratique et la question sociale me semble être au cœur de toute une série de mobilisations. Je reviens du Chili, alors évidemment pour l'empreinte carbone, ça n'est pas génial, mais justement où je suis allé parler de la Convention citoyenne pour le climat, et on avait affaire à une configuration tout à fait comparable, hein, où la démocratie, cette demande de démocratie venait appuyer une demande de reconnaissance, une demande de justice, et une demande d'inclusion, et évidemment une critique radicale du néolibéralisme. Alors tout a changé, et tout a changé finalement pourquoi ? D'abord parce que on perçoit aujourd'hui la fragilité des institutions de la démocratie représentative. Leur lente décomposition qui connaît aujourd'hui un phénomène d'accélération. Si on définit la démocratie ou l'idéal démocratique de manière un tout petit peu précise, on s'aperçoit que ce qui passait pour être notre régime démocratique est attaqué, remis en cause, affaibli dans toutes ses dimensions. D'abord, il y a la première dimension de l'idéal démocratique, c'est cet idéal de souveraineté populaire. La démocratie, c'est ce régime où, en théorie, le peuple est celui qui doit avoir le dernier mot sur le gouvernement, doit inspirer l'élaboration des lois. Et pour reprendre une définition simple, robuste, que je cite régulièrement, qui est celle de Robert Dahl, la démocratie, c'est ce régime où tous les citoyens ont une chance égale d'influencer le gouvernement, la politique. Hein, cette idée d'une possibilité égale offerte à chacun d'intervenir dans le processus de décision. Ça, c'est vraiment le principe cardinal de la démocratie. Et on voit bien aujourd'hui que cette souveraineté populaire est de plus en plus perçue comme une fiction qui ne produit plus d'effet sur le fonctionnement ordinaire de nos gouvernements. Aujourd'hui, un doute s'est installé dans l'opinion publique. Il est effectivement extrêmement présent dans les mobilisations. Ce doute, il tient à ce que les citoyens ont le sentiment que le peuple n'a plus d'influence, en tout cas le peuple dans son ensemble, n'a plus d'influence sur les politiques publiques, sur l'action publique, mais que ce sont des forces, alors dans une version théorie du complot, ce sont des forces occultes qui gouvernent. Dans une analyse plus critique du fonctionnement de nos sociétés et de nos systèmes politiques, ce sont des pouvoirs non élus qui aujourd'hui exercent le plus d'influence sur la décision. Ces pouvoirs non élus, ce sont les marchés, ce sont les grandes entreprises, ce sont les agences de notation, voilà, tout un ensemble d'acteurs sur lesquels le peuple n'a pas véritablement de prise. Mais la deuxième dimension de l'idéal démocratique est remise en cause aussi. C'est la dimension qui renvoie aux libertés, à l'état de droit. On voit nos libertés publiques, individuelles et collectives, régresser. Et ce, de manière tout à fait spectaculaire depuis septembre 2001, au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la préservation de notre sécurité, on voit une régression de ces libertés et une intensification des dispositifs de répression. C'est le droit de manifestation qui aujourd'hui est dans un certain nombre de configurations remises en cause, la surveillance dont nous faisons l'objet aujourd'hui, les moyens donnés aux appareils de sécurité ont augmenté et laissent à penser que nous ne sommes plus véritablement dans un état de liberté. Et puis la troisième dimension, et c'est celle à laquelle je tiens le plus, qui est l'idée selon laquelle la démocratie renvoie à des formes de vie. La démocratie, c'est un état social, ça n'est pas uniquement des institutions, ça n'est pas uniquement une forme de gouvernement, ça n'est pas uniquement du droit, mais ce sont aussi des comportements, ce sont aussi des relations entre les citoyens. Ça renvoie à un ethos qui peut être plus ou moins partagé par les individus dans une société. Cet ethos consiste non seulement à se sentir suffisamment légitime à prendre la parole dans l'espace public, à se faire entendre des pouvoirs, mais c'est un ethos qui vous conduit aussi à accepter que l'autre puisse avoir raison, à entretenir avec lui des relations d'égalité. Ces formes de vie démocratique, elles sont aussi menacées à certains égards. Menacées pourquoi ? Menacées comment ? D'abord par le fait que beaucoup de nos concitoyens ont renoncé à l'exercice de leur citoyenneté, font l'objet d'une indifférence problématique à l'égard des affaires publiques, ont accepté leur rôle de consommateur et de producteur comme une condition de leur existence, tout en finalement ne participant plus aux affaires publiques. Cette indifférence à l'égard de la politique, qui peut se traduire, pas complètement directement, mais dans une abstention, l'abstention étant un phénomène multidimensionnel, hein, il peut y avoir des abstentionnistes extrêmement politiques, hein, mais il y a une sorte de... voilà. Et puis, la deuxième menace qui pèse sur la démocratie comme forme de vie, c'est ce qu'on peut constater à travers la polarisation de l'opinion, la brutalisation du débat public, le fait qu'on ne considère plus l'autre comme un adversaire, ayant une légitimité à exprimer son point de vue, mais comme un ennemi, est quelque chose qui constitue une pathologie extrêmement problématique de la démocratie, qui est encouragée par un certain nombre de conditions techniques, hein, les réseaux sociaux, du fait de leur absence de régulation, encouragent ces formes de polarisation de l'opinion, mais un certain nombre de nos leaders aussi politiques les activent. Alors, ça, c'est l'envers de la médaille. C'est ces démocraties qui sont menacées d'effondrement, qui d'un certain point de vue, parce que ce soit en haut ou en bas, plus personne ne leur fait confiance et plus personne n'y croit ou ne semble attaché aux principes et aux règles sur lesquelles elles reposent. Nous avons des élites qui, effectivement, sont prêtes à transiger, en tout cas pour partie d'entre elles, avec les principes fondateurs de la démocratie. Et nous avons des citoyens qui croient de moins en moins, notamment à la fiction de la représentation. Cette fiction théologico-juridique, hein, pourrait-on dire, sur laquelle repose notre système politique, aujourd'hui, cette fiction ne produit plus d'effet de croyance. Nous ne pensons plus que parce que quelqu'un a été élu, il est capable de nous représenter, c'est-à-dire de se substituer à nous et de parler en notre place. Dans ce constat général d'épuisement des formes démocratiques, il me semble que cet affaiblissement des croyances dans la fiction de la représentation constitue quelque chose de tout à fait fondamental et qui nous condamne à inventer des dispositifs démocratiques qui minimisent la place de la représentation. Alors, après ces conditions que vous considérerez comme très générales, venons-en maintenant à la question de ce que nous avons appelé avec Yves Saint-Omer il y a maintenant bien longtemps, l'impératif participatif. Aujourd'hui, pourtant, l'impératif participatif est au cœur du débat et de l'action publique. Qu'est-ce que c'est que l'impératif participatif ? C'est une forme de norme informelle conduit un certain nombre d'acteurs à considérer que la participation des citoyens ordinaires, directs ou indirects, au processus de décision constitue une nécessité doit être organisée. Hein, cette idée d'une participation des citoyens ordinaires au processus de décision. Mais on voit bien comment cet impératif participatif se décline sur des registres politiques tout à fait différents, entre ceux qui veulent un pouvoir citoyen, entre ceux qui veulent un transfert de pouvoir des autorités politiques aux citoyens, ce qu'on pourrait appeler une forme de démocratie directe, Et ceux qui se contentent d'associer symboliquement les citoyens à travers des formes de consultation qui n'établissent qu'un lien très indirect entre la participation citoyenne et la décision, il y a des mondes et des différences tout à fait considérables. Mais notons que cet impératif participatif fait que dans toute une série de secteurs de l'action publique, les premiers secteurs les plus concernés ont été le secteur de l'environnement et le secteur de l'urbanisme, hein, des politiques urbaines, des projets urbains. Aujourd'hui, cet impératif participatif, il s'étend à, je dirais pas la totalité des politiques publiques, mais à un très grand nombre d'entre elles. Et c'est ça la nouveauté, et c'est ça qui fait l'intérêt aujourd'hui de la question. Néanmoins, il faut relativiser cet impératif participatif. Pourquoi ? Parce qu'il existe encore aujourd'hui des représentations puissantes du pouvoir et de la légitimité qui considèrent que la participation citoyenne n'est pas une nécessité. Et il y a trois grandes idéologies politiques, trois grandes conceptions de la politique qui ne font pas de la participation politique une exigence. La première de ces visions politiques, de ces idéologies politiques, c'est celle qui sous-tend nos institutions politiques actuelles. C'est celle qui a été élaborée à la fin du XVIIIe siècle, hein, vous le savez, et on le sait maintenant de manière tout à fait précise, aux États-Unis et en France, par des révolutionnaires américains et français, qui détestaient la démocratie, qui ont essayé d'inventer, et y sont parvenus, une forme de gouvernement qui soit alternative à la fois à la démocratie et à l'absolutisme monarchique. Tout ça a été très bien. Bon, voilà, je pense que vous êtes au courant parce que ces idées sont aujourd'hui largement disponibles dans le débat public. Mais si vous allez relire Bernard Manin dans son grand livre « Principes du gouvernement représentatif » ou Francis Dupuy-Déry, vous en ressortez avec cette certitude que le gouvernement représentatif n'est pas la démocratie, a été pensé comme un antidote à la démocratie. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement représentatif ? C'est un régime dans lequel le peuple est souverain en théorie seulement et dans lequel il n'a pour rôle que de déléguer à des représentants qui sont jugés plus compétents et plus vertueux que lui l'exercice du pouvoir. En aucun cas, le peuple ne peut se gouverner lui-même, ce qui est le contraire de l'idéal démocratique originel. Et évidemment, les raisons qui ont été invoquées sont multiples. La première raison, elle était technique, mais cette raison, finalement, elle était, à mon avis, secondaire. Il y a un lieu commun perpétué par la pensée politique depuis cette période, et même qui était déjà présente à Athènes, qui voulait que la démocratie ne soit praticable que dans des cités, c'est-à-dire dans des espaces politiques relativement restreints. Et l'idée que développait Montesquieu, que la monarchie était le bon modèle de gouvernement pour les nations modernes et l'Empire pour les espaces politiques plus vastes, était une idée qui allait de soi. Mais la raison politique véritable, c'était que les citoyens étaient jugés dangereux, incompétents et dangereux. Et ce leitmotiv constitue un fil rouge de la pensée politique jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ce fil rouge, c'est que les citoyens ne sont pas suffisamment ni disponibles, ni éclairés pour participer à la décision. Et c'est cette idée qui a structuré et justifié les dispositifs de représentation qui sont les nôtres aujourd'hui et qui sont aujourd'hui complètement remis en cause. Le deuxième programme politique qui ne fait pas de la participation un problème, ou en tout cas qui considère qu'il s'agit d'un danger, c'est le programme épistocratique, technocratique, qui consiste à dire que le pouvoir ne doit pas être le fait des élus, mais être le fait des savants, des experts, des techniciens. Et ce programme épistocratique, il prospère aujourd'hui. Hein. On sait que dans l'entre-deux-guerres, il y a eu tout un ensemble de réflexions sur la technocratie. Mais aujourd'hui, il est clair que c'est ce programme qui est au pouvoir actuellement. Nous avons des acteurs issus de la fonction publique ou issus des milieux économiques qui circulent entre ces univers et qui considèrent qu'ils connaissent finalement les lois du monde et qu'ils n'ont en aucun cas besoin consulter les citoyens pour savoir ce qu'il faut mener comme politique. Ce programme épistocratique, il est extrêmement puissant. Il amène à invalider les rares fois où le peuple est amené à se prononcer. Souvenez-vous de l'épisode grec, souvenez-vous d'un certain nombre d'épisodes politiques récents. Le peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui, nous le savons, puisque nous faisons en sorte que la science économique soit au pouvoir. Alors évidemment, sous prétexte de dépolitisation, de la décision, cet idéal épistocratique, ces justifications épistocratiques du pouvoir font de la politique. Hein, c'est une évidence. Et puis la troisième position, c'est la position, disons, alors vous savez qu'avec d'autres, je suis mal à l'aise avec le mot, populiste autoritaire, très puissante aussi. Nous avons des leaders aujourd'hui, qu'on peut qualifier de populistes d'extrême droite, le plus souvent, mais aussi quelquefois d'extrême gauche, qui, eux, reviennent à la souveraineté du peuple pour proposer comme débouché à la souveraineté du peuple la confiance en un leader, en un pouvoir autoritaire. Très frappant, lorsque Donald Trump est arrivé à prêter serment, il a dit aux Américains « je vous rends le pouvoir ». Et il y a derrière cette position, hein, qui est beaucoup discutée par Pierre Rosanvallon dans son dernier livre, cette position populiste, un rejet non seulement des élites, mais de toute forme d'intermédiation politique, de toute forme de filtre, hein, à la volonté populaire. On voit bien comment cette posture ou cette idéologie peut valoriser le référendum, hein, comme modalité d'expression du peuple, pourvu que finalement ce référendum soit plébiscitaire. Alors, ce que je vais essayer de faire avec vous, dans les 20 minutes qui me restent, et en allant rapidement, et après ce grand débroussaillage dont je conviens qu'il reste